Donc on commence, Saint Marc, chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Là, vous avez ce qui sera remplacé par Matthieu et Luc, l'évangile de l'enfance, par l'évangile de l'enfance. C'est le prologue de Marc, un seul verset, c'est son titre en quelque sorte. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Saint Jean lui mettra un prologue. Ben, Saint Marc, c'est l'homme pressé, c'est l'évangile le plus court. Il est pressé, il va à l'essentiel. Donc ça commence au baptême du Christ, ça finit par une évocation de l'ascension qui n'est même pas développée. On a la vie publique de Jésus. C'est tout, pas plus, pas moins. Ça suffit pour prêcher la foi. L'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, vous pouvez mettre une virgule qui est souvent absente entre Jésus et Christ. Et ça vous donne le plan du livre. Vous avez le titre et aussi le plan. Première partie. Christ, Jésus le Christ, c'est ce que dira Saint-Pierre à la fin de notre première partie au chapitre 8, tu es le Christ. Les fils de Dieu, c'est ce que dira le centurion à la fin de la deuxième partie, vraiment cet homme-là était fils de Dieu. Et donc on a, nous lecteurs, la réponse à la grande question qui va animer tout l'évangile, qui va animer tous les personnages de l'évangile, qui est Jésus? Qui est ce Jésus Christ, fils de Dieu? Et c'est drôle parce que ceux qui le savent, on va leur demander de se taire. Les démons disent, nous savons qui tu es le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, et Jésus leur commandera de se taire. Ça, c'est une chose qui est très présente chez Marc, on la retrouve un peu chez Matthieu, chez Luc, pardon, mais en moins développée, moins présente. Il y a ce qu'on appelle le mystère martien, avec un C. Mystère martien.
Toujours à sa maman. Dans le actuellement. Je fais la soupe maintenant.
Quelqu'un là-dedans. Donc, le mystère martien, Saint Marc voile la réponse à sa question principale. Il y en a qui savent qui est Jésus, mais Jésus les fait taire. Et nous, on est tenus en haleine qui est Jésus. Mais il y a une autre question qui va nous animer pendant cette lecture, c'est qu'est-ce que l'évangile qui commence ? On dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Saint Marc est le seul à parler du texte qu'on va lire comme d'un évangile. Et ce n'est pas si évident que ça de savoir ce que c'est que l'évangile. Si on a le temps, on fera un peu la recension des passages de Marc où il parle de l'évangile. En fait, il y a au moins trois sens différents du mot évangile dans Saint Marc. Et donc, on ne sait pas bien. Là, ici, ça ressemble plutôt à la proclamation d'un événement comme il y avait dans l'Empire romain. Je vous annonce une grande nouvelle, c'est le début du règne d'un tel ou un tel est né. C'est une annonce publique d'une grande nouvelle, d'un changement d'air, puisque l'Empire se renouvelle dans un nouvel empereur. C'est ça l'Évangile. Et donc là, avec ce titre, on a le début d'une ère nouvelle. Donc l'Évangile, c'est ce qui est raconté. C'est le premier sens qu'on peut facilement deviner. Avec un sens adjacent, c'est le récit, le texte qui contient le récit. En fait, s'il y a d'autres choses qui vont émerger. Bon, autant qu'on y est, on va quand même un peu savourer le passage parce que rester sur un seul verset, ce serait trop frustrant. Et puis, on va arriver tout de suite à la fin de notre topo si on ne s'attarde pas un peu au début. Donc, on va quand même lire un peu les versets 2 à 13 pour vous donner quelques saveurs. Ça, c'est un peu une espèce d'aparté par rapport au plan général, mais c'est quand même dommage de lire la Bible sans qu'il y ait un contact avec l'âme et que la charité puisse grandir. Vous savez, hein, la Bible ne se lit pas sans que ce soit une expérience spirituelle. Ce serait du temps perdu, à moins d'être un chercheur. Je pense que ce n'est pas pour ça que vous lisez la Bible en ce moment. Là, l'idée, c'est que la foi soit nourrie par un contact quasi sacramentel du lecteur avec le Christ qui nous est donné par l'Écriture. Donc, verset 2 est suivant. Selon qu'il est écrit dans Isaïe, le prophète, etc. Notez bien que « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour frayer ton chemin » n'est pas dans Isaïe. C'est Isaïe commence au verset 3. « Voix de celui qui clame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Parut Jean le baptiseur dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. » Là, vous avez un pécheur. Je ne sais pas si vous avez rencontré cette notion déjà. Le pécheur, c'est une méthode rabbinique d'interprétation de la Bible. On prend un texte ancien et on en fait un décalque adapté à la situation nouvelle. Et là, le texte ancien, c'est au verset 3, la citation d'Isaïe, avec deux mots qui sont repris dans l'application que fait Marc. Vous avez « clamé », qui est repris en proclamant dans le verset 4, et « désert », qui est présent dans 3 et 4. Et donc, il y a un décalque de cette citation d'Isaïe qui devient « paru Jean-Baptiseur dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés ». Donc là, il y a une application du texte d'Isaïe à la situation présente qui nous est rapportée. Et Isaïe, la citation, c'est Isaïe 40. Vous avez eu un topo sur Isaïe déjà ou pas? Oui, donc chapitre 40, c'est facile, c'est quoi? Pas du tout, c'est 53. 40, c'est le livre des consolations qui commence, c'est le second Isaïe. D'accord? Ça commence comme ça, je retrouve. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée. Donc c'est le début du bien nouvel. C'est le début de la consolation. Isaïe 40 s'adresse non plus aux Juifs qui vont être exilés, mais aux Juifs qui sont en exil pour leur annoncer que c'est bientôt fini. C'est la fin d'un exil qui commence avec l'évangile de Marc. Et comme c'est un texte qui est bien connu par tous les Juifs de l'époque, si on leur cite un bout, ils se souviennent de tout le passage. Or, ce passage d'Isaïe 40 finit avec ce verset 5. Alors la gloire de Yahvé se révélera et toute chair d'un coup la verra qu'à la bouche de Yahvé a parlé. Donc la gloire de Yahvé va être présente effectivement dans le passage quand les cieux vont se déchirer et que l'Esprit Saint va tomber sur Jésus, la parole de Dieu. Donc nous allons voir la gloire de Yahvé se répandre à travers le baptême du Christ. Notez bien que cette application d'Isaïe à la situation de Jésus se fait avec des petits coups de cutter. Si vous regardez de près le Isaïe 40, verset 3, d'abord, on a changé la ponctuation. La ponctuation, elle était dans aucun manuscrit de l'époque, ni en hébreu, ni en grec, mais c'était l'interprétation classique qui se faisait. Isaïe, on le comprend comme ça, une voix crie, deux points dans le désert, etc. Et Marc en fait autre chose, une voix crie dans le désert, deux points, etc. Donc on change le sens, un premier coup de cutter, et l'autre coup de cutter, c'est... Excusez-moi. Préparer le chemin du Seigneur. Donc le Seigneur a traduit Yahvé, mais ça c'est normal. Et aplanissez une route pour notre Dieu. Pour notre Dieu a été enlevé, puisque en fait il s'agit du Christ qui arrive. Que Dieu sous-entendrait plutôt Dieu le Père. Vous avez ensuite la scène du baptême du Christ, avec le mot propre à Saint Marc, les cieux qui se déchirent, c'est très imagé. Saint Marc, petite parenthèse, vous pouvez noter ça sur une fiche à côté, Saint Marc, c'est celui qui est le plus nature dans son expression. C'est-à-dire que c'est très cru, très simple, parfois même un peu rude ou absurde. C'est là qu'on voit Jésus qui gronde la mer, qui lui dit « Tais-toi, arrête !» Ce qui est quand même un peu curieux qu'on se rendresse à quelque chose d'irrationnel. Et c'est aussi celui qui raconte comment Jésus embrasse un enfant. Dans Saint-Marc, Jésus embrasse l'enfant les deux fois où il y en a en scène. Et en fait, ça saute chez Luc et Matthieu, parce que bon, c'est certes plaisant, mais ça ne fait pas avancer le chemin public. Et donc, Saint-Marc a ce côté un peu polaroïde de nous présenter des choses au naturel. Jésus a des sentiments qui sont moins travaillés, moins discrets, moins raffinés que dans les autres évangiles. Plus nature. C'est ça aussi qui le rend intéressant. Et vous avez enfin, pour conclure sur ce petit passage, 12-13, pardon, le premier fruit du baptême, à savoir l'Esprit Saint qui le pousse au désert. Vous voyez? Et je rentre un peu dans ce qui est propre à ce topo et à ma vie aussi à l'évangile de Saint-Marc, c'est de bien montrer comment l'écriture, qui est une écriture vivante, fait ce qu'elle dit chez le lecteur. Et donc, si à la fin du baptême du Christ, vous avez cette mention, et aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il était pendant 40 jours tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient, vous êtes passé à l'imparfait, donc un passé qui dure. Vous avez là une pause. Quand vous avez un passage à l'imparfait dans Saint-Marc, en conclusion d'un petit passage, c'est une pause méditative, contemplative, et qui doit aussi être un toucher du cœur. Si vous suivez avec la foi ce texte, là, il y a une pause à faire. Je reçois l'Esprit-Saint et je savoure la présence de l'Esprit-Saint au désert. D'accord ? C'est là où vous écoutez vraiment l'Écriture. Vous voyez ? Il y a un autre passage très marrant, avec l'usage de l'imparfait, c'est le passage des 2000 porcs qui sont jetés dans la mer et ils se noyaient. Et là, il faut passer du temps à contempler les 2000 porcs qui se noient. Ce n'est pas très contemplatif, mais c'est marrant. Donc, on passe au milieu. Donc, chapitre 8. Verset, je crois que c'est 50 environ. Non, 27. 8, 27. En fait, l'hémisphère, l'équateur de Marc passe dans ce passage-là, entre 8, 27 et 9, 1. Plus exactement, entre 28 et 29. Non, 30 et 31, excusez-moi. J'espère que vous ne faites pas trop de rature à cause de moi. Vous avez la conclusion de cette première partie où on cherche à savoir qui est Jésus. Vous avez la réponse de Pierre, tu es le Christ, verset 29. Pendant toute cette première moitié, Jésus a rassemblé des groupes autour de lui. D'abord les 4, puis les 12, puis des foules, puis des opposants. Vous avez du coup les trois cercles autour de Jésus. Le premier arrivé, c'est la foule, mais vous avez vite après les disciples rapprochés qui vont devenir les 12. Mais vous avez dès la fin du chapitre 2, les opposants qui décrètent la mort de Jésus. Et donc ces trois groupes-là se constituent avec du coup un enseignement adapté selon les situations. Et à un moment, voyant que l'opposition grandit et que les foules comprennent de moins en moins bien, Jésus prend à part les 12 à Césarée de Philippe. Donc on y est là au verset 27, 8-27. Césarée de Philippe, c'est une ville non juive, quoiqu'elle soit en Terre Sainte, tout au nord, c'est-à-dire un endroit où il n'y aura pas de foule avec Jésus, puisque c'est non juif, Jésus est seul avec ses 12. C'est important de bien noter ça. Et en chemin, il posait à ses disciples cette question, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Et lui dire, etc. Vous connaissez un peu le passage. L'intérêt quand on étudie Saint-Marc, c'est à la fois un piège et un intérêt, c'est qu'on connaît déjà tout ce qui se passe. Il y a très très peu de choses propres à Saint-Marc dans cet évangile, puisque tout a été repris, à quelques exceptions près, par les autres évangélistes. Vous voyez ? Des exemples de choses propres à Saint-Marc, vous allez voir, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a le détail croustillant du jeune homme qui s'enfuit tout nu le soir de l'arrestation. Il y a une parabole de deux versets sur l'homme qui jette sa semence et elle croit et elle pousse sans qu'il sache comment. Et puis les enfants embrassés, des petites choses comme ça. Mais vous voyez, il n'y a pas de quoi remplir une page à 4. Donc Saint-Marc a très peu de choses qui lui sont propres. Du coup, on connaît tout, mais du coup, parfois, on lit sans lire. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là de lire un commentaire spirituel, un ouvrage spirituel. Vous avez une citation de la Bible qui commence, et hop, vous allez à la fin de la citation, puisque vous connaissez. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience un peu humiliante. Mais si je connais la Bible, je ne la lis plus. Donc ça, c'est le piège de Saint-Marc. C'est que la tentation, c'est de le lire alors qu'on connaît tout et du coup, sans s'y arrêter. Si on lit attentivement, on trouvera plein de choses. Mais il faut avoir un peu de patience. Donc vous connaissez ce passage. Avec cette réponse de Pierre, tu es le Christ. Et là, on retrouve le mystère martien, verset 30. Alors, il leur enjoignit de ne parler de lui à personne. J'anticipe un peu du coup sur la fin, parce qu'on n'y reviendra pas sur ce passage-là du mystère martien. La réponse qu'on voit dans les commentaires les plus savants et les plus sérieux sur pourquoi Jésus se cache à ce point-là, c'est que les foules ni les disciples ne sont pas prêts à recevoir l'intégralité du message. Que Jésus soit le Christ, en fait, s'ils l'entendent aujourd'hui, ça va les troubler. Ils vont imaginer un Christ à la manière de David, c'est-à-dire casqué et beauté, avec un glaive, une lance, pour aller mettre les Romains à la mer. C'est pas ça du tout le Messie que Jésus veut être. C'est un Messie qui va souffrir. Voilà. C'est la grande chose qu'il va devoir révéler dans cette deuxième moitié qui commence imminemment. C'est « Je suis le Messie, oui, mais un Messie qui va se souffrir selon la prophétie d'Isaïe 53, le serviteur souffrant. » Vous voyez, le seul qui va pouvoir vraiment dire que Jésus est Messie publiquement sans être amené au silence, c'est Bartimée, l'aveugle guéri par Jésus juste avant d'arriver à Jérusalem. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Fils de David, hein, c'est un titre messianique sans aucune équivoque. Fils de David, ça veut dire David. Nouveau David, ça veut dire Messie. Et Jésus le fait pas taire. C'est les fous. Parce que justement, c'est juste avant les rameaux, entrer dans Jérusalem à 3 jours de sa passion. Donc en fait, c'est pas grave si les fous se trompent. De toute façon, tout est déjà joué. Jésus va mourir. Et donc, s'ils se trompent, ils vont vite être remis dans la vérité. Et au verset 31, ça y est, on a changé d'époque, il commença, commencement, comme au verset 1 du chapitre 1, il commença de leur enseigner, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et être tué, et après 3 jours, ressuscité. Première annonce de la Passion. Et là, vous commencez une partie qui va être rythmée par les 3 annonces de la Passion, c'est facile, ça commence toujours pareil, une annonce, aussitôt après, une boulette de l'un des 12, et ensuite un enseignement, en général assez péchu, sur prendre sa croix et suivre Jésus. Un truc un peu énergique pour se préparer à la Passion. Et justement, il y a des boulettes, puisque on voit ça au verset 32-33, Pierre, le tyran à lui, se mit à le morigéner. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, a donné à Pierre et dit, passe derrière moi Satan, pas entendu, son cœur commence de se boucher. C'est ça qui est dramatique, c'est que toute la première moitié a été employée à faire des groupes qui ont la foi autour de Jésus, donc les 12 qui ont eu des enseignements extrêmement explicites, et les fous aussi qui ont commis beaucoup, et les cœurs se bouchent. L'expression cœur bouché revient plusieurs fois. Et vraiment, c'est dramatique de voir que plus on avance, plus ce phénomène va s'accroître. C'est assez dramatique, en fait. Comme s'il y avait un isolement progressif de Jésus. Donc, vous avez une montée dans la première moitié et une descente dans la deuxième. Ce qui a été construit dans la première moitié se défait dans la deuxième. On va se demander pourquoi il y a un évangile, du coup. Si à la fin, on se retrouve au même point qu'au début. C'est à se demander à quoi bon avoir tous ces éléments. Donc, au début, les cœurs bouchés, c'est facile, c'est ceux qui voulaient tuer Jésus. Bon, on s'y attendait, on a été prévenus de début, on n'en espère rien. De toute façon, on sait bien comment ça va finir. Mais ce qui fait de la peine, c'est de voir comment Jésus, qui a peiné pour donner la foi aux disciples, c'est dans Saint-Marc que vous avez les 2 miracles peineux, avec Ephphéta, quand Jésus soupire pour ouvrir le sourbègue. Et l'autre miracle peineux, c'est quand il impose 2 fois les mains à un aveugle pour qu'il voie. Avec cette phrase curieuse, « Je vois des hommes marcher, mais c'est comme des arbres qui marchent. » Waouh, c'est du Saint-Marc. C'est une anticipation sur Tolkien, avec les Ents. Mais voilà, c'est curieux. Moi, je n'ai jamais vu des hommes qui ressemblent à des arbres en marchant. Enfin, du coup, Jésus réimpose les mains et là, il voit bien. Et en fait, ces 2 miracles peineux sont la figure de Jésus, une parabole en acte en quelque sorte, de Jésus qui a du mal à être compris et entendu. Il doit s'y reprendre, il soupire, il travaille. Donc il a peiné pendant toute une moitié de l'évangile, et en fait, au moment où on dit « ça y est, ils ont pigé », quand Pierre dit « tu es le Christ », aussitôt après, Saint-Pierre lui fait dire, en fait, tu peux redire, j'ai pas bien compris, parce que juste après, il fait sa boulette, quoi, énorme boulette, il morigène Jésus, qu'il n'ait pas compris, on peut le concéder, qu'il a du mal à entendre que Jésus doit mourir, on peut le concéder, il aime Jésus. Donc, on peut comprendre, mais qu'il tire Jésus à part, en disant, non, n'importe quoi, tu te trompes, ben là, c'est inadmissible, en fait, il dit, mais mince, quoi, mince, et en fait, ça va se débobiner comme ça pendant tout le temps. Vous avez ensuite la boulette des 12 qui disputent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Super. De quoi avez-vous parlé en chemin ? Silence gêné. Et ensuite, les deux, Jacques et Jean, qui envoient leur mère, la mère juive, hein, les personnes de juive dans la salle. Excusez-moi hein, s'il y en a un. Mais la mère juive, hein, c'est la mère orientale. Les Libanaises sont pareilles. C'est vraiment la mère qui veut pousser ses enfants, qui c'est la prunelle de ses yeux. Et une mère juive ne dira jamais bah, mon enfant doit bien se débrouiller pour faire sa place dans sa vie. Quoi. Enfin, non, la mère va toujours voir l'enfant t'aime. Et donc, ils envoient leur mère pour demander les deux premières places. Mais remarquez bien que les 10, quand ils entendent qu'ils ont fait ça, ils leur tombent dessus. Enfin, ils ne disent pas, mais tu n'as rien compris au royaume de Dieu. Non, non, ils disent, non, non, c'est nous qui serons. Enfin, bon. Donc, en fait, c'est pathétique. C'est pathétique, les 12 n'ont rien compris. Et en fait, ça va être comme ça pendant tout le film, jusqu'à la fin. Donc, ben, ça va, on a commencé à écart, il reste un quart d'heure pour faire la troisième partie. Il n'y a pas de questions ? Non ? Ça ne va pas trop vite ? C'est bon ? Donc, chapitre 8, chapitre 16. Chapitre 16, et on va à la finale primitive de Marc, qui est le verset 8. Vous avez donc le récit des femmes qui vont au tombeau, et l'ange qui leur apparaît. Qui leur dit ceci, « Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Et ça s'arrête là. C'est la finale la plus ancienne de Marc. Il y a des manuscrits qui s'arrêtent là. Il y a des manuscrits qui ont un verset 9 particulier, dont je n'ai pas la traduction. Oui, c'est ça. Et après ceci, Jésus leur apparut et il les envoie de l'Orient à l'Occident. Il les envoya de l'Orient à l'Occident pour la sainte et incorruptible prédication du salut éternel. Amen. Ça, c'est le verset 9 de certaines versions. Et vous avez une autre version finale dans d'autres manuscrits. C'est celle qui est retenue souvent dans les Bibles en français. 9 à 20, qui sont un résumé des apparitions racontées. C'est bon, on est en temps limité, bonne nouvelle. Qui est un résumé des apparitions dans les trois autres évangiles et qui est dans un style extrêmement différent de celui de Marc dans le corps de son évangile. Et donc, c'est vraiment une proposition unanime de tous les exégètes de Saint Marc. C'est que Saint Marc a rédigé d'abord jusqu'au verset 8 et s'arrêtait là. Et Saint Marc, ou un autre plus tard, a rajouté une autre finale. Qui est dans le canon des Écritures, donc elle est inspirée. Mais si on veut, peut-être par snobisme ou peut-être parce que c'est pertinent, je sais, vous en jugerez, si on veut rentrer dans le dessin primitif de Marc, c'est bien de s'arrêter au verset 8, sur ce tombé de rideau brutal et hyper frustrant. Elles ne disent rien à personne car elles avaient peur. Voilà. Et donc vous avez eu... l'arrestation de Jésus et son procès, donc vous avez la trahison de Judas, la fuite des 11, le reniement de Pierre, et ensuite vous avez la condamnation de Jésus et donc le reniement de la foule qui demande Barabbas. Et donc vous avez tous ceux qui étaient avant autour de Jésus comme des disciples qui ont fichu le camp, quoi. Il n'y a plus personne. Il y a juste ces femmes-là. On découvre qu'elles existaient au chapitre 15, verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, de José et Salomé. Ces femmes-là, on n'entendait pas parler avant, mais on découvre qu'elles étaient là depuis le début. Qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée. Donc, s'il n'y a plus que ces femmes-là qui sont restées au pied de Jésus pendant qu'il était crucifié, donc on se dit, bon, bah, c'est bon, il y a au moins cette foi-là qui va rester. Elles font la transition pendant la nuit du sabbat. Donc, la foi est gardée vive, en quelque sorte. D'ailleurs, il y a un phénomène de mot crochet, en quelque sorte. Bon, un mot crochet, c'est un mot qui permet de relier deux parties d'un écrit. parce qu'il est à la fin de la première partie, au début de la deuxième. Donc, on est bien dans deux parties différentes. D'accord ? Donc, c'est, ou un mot bouton, quoi. C'est une espèce de lien mnémotechnique pour enchaîner les parties. C'est, si vous voulez vous éclater, attendez, c'est où ? Je vais vous donner la référence. Si vous voulez vous amuser avec les mots crochets, ça fait un peu chapeau de paille, paillasson, etc. Mais en fait, c'est construit grâce à des petites coutures comme ça en mots crochets. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, on retombe sur le thème de début. Et grâce à ça, on peut essayer de trouver une espèce d'homogénéité dans tout ce passage-là. Voilà. C'est après la deuxième boulette des apôtres. Chapitre 9, verset 35 jusqu'au verset 50. Et là, vous avez un discours de Jésus qui est en mots crochets. Voilà, des petits passages que ça marque à prolonge l'année ici ou là, qui ne sont pas forcément du même moment de la vie de Jésus, chacun, mais que Saint-Marc a mis là parce que ça tombait pas mal. Saint-Matthieu, c'est le roi de ça. Hein. Lui, Matthieu, vous avez fait Matthieu, je crois. Hein.
Oui.
Oui. Donc, les discours fonctionnent par grande pochette. Il y a 5 discours, si je ne me trompe pas. Et dans la pochette, il met les feuilles volantes. Donc, il essaie de faire un truc un peu homogène avec justement des systèmes de raccords plus ou moins extérieurs, en fait, ou moins pertinents par rapport à l'intelligence générale. Et donc, ces femmes ont fait la liaison, sauf que on comptait beaucoup sur elles, parce que c'était les dernières à rester auprès de Jésus, mais elles vont défaillir. C'est ça le drame. C'est qu'on finit sur la défaillance des femmes, mais elles ne disent rien à personne, car elles avaient peur. La bonne nouvelle de la résurrection du Christ, et donc cette bonne nouvelle en fait, qui résume un peu tout notre évangile, qui rendait raison un peu de récit qu'on vient de parcourir, ce vers quoi nous tendions tombe dans le vide. Tout bêtement. Vous voyez ? Alors, à quoi bon un évangile ? Qu'est-ce que c'est que cet évangile qui ne sert à rien ? Je reviens un peu en arrière, parce que je suis allé un peu trop vite à un moment, vous me pardonnerez. C'est comme on décousu, mais bon. Vous n'êtes pas indulgent, j'espère. Et puis, vous pouvez me poser des questions si certains liens logiques vous ont été trop vite dit. Je reviens au deuxième passage que nous avons étudié, chapitre 8, versets 27 à 38. Vous avez donc le passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et juste après, verset 34, appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce passage-là, on est vraiment dans un passage clé de l'Évangile et très intriguant parce qu'on est en Césarée de Philippe et il n'y a pas de foule. Si Jésus est monté en Césarée de Philippe, c'est pour être sans foule, seul avec les 12. Mais au verset 34, il appelle à lui la foule. Là, il y a ce qu'on appelle une faute de montage. En cinéma, parfois, vous verrez dans L'Homme fatal 1, c'est un film de vieux, je sais, mais excusez-moi, j'ai 40 ans. L'Arme fatale 1, si vous faites attention, Mel Gibson mange une fois son sandwich et au plan d'après, le sandwich est intact. Faute de raccord. L'accessoiriste s'est trompé. On a mis à la suite de l'autre deux plans qui sont hétérogènes. Ça va, j'ai perdu personne dans L'Arme fatale. Et donc, on a la même chose, Saint-Marc met bout à bout deux plans qui en fait n'étaient pas au même moment dans la vie de Jésus, mais qui tombaient bien pour lui. Et en fait, j'y vois aussi un sens spirituel, c'est peut-être une astuce de ma part, vous en jugerez, et en tout cas, ça va bien dans la lignée générale. Cette foule qui déboule de nulle part, c'est évidemment historiquement la foule à laquelle Jésus s'adressait, mais comme elle n'était pas là à ce moment-là, j'y vois la foule de l'Église qui lira l'Évangile. Puisque l'Évangile, c'est certes la vie de Jésus et la nouvelle ère qui commence, c'est aussi le récit qui en est fait par saint Marc, donc le livre, mais c'est aussi l'effet de ce récit l'effet de la vie de Jésus qui continue dans la vie de l'Église. Vous voyez, dans le Seigneur des Anneaux, il y a un moment où Pipin qui dit à Merry, eh ben, ce qu'on vient de vivre, ça fera un fameux chapitre. Ça ferait un fameux chapitre si on écrivait tout ce qu'on, si ça faisait un livre. Et donc, Merry et Pipin savent qu'ils sont des hommes dans un livre. Et donc, le temps du lecteur fait partie aussi du livre. Ça va ? Alors, chez Tolkien, c'est une blague, c'est un clin d'œil. C'est Tolkien qui fait un petit coucou à son lecteur de façon abusée. C'est une manière de créer une sympathie du lecteur pour le narrateur, l'écrivain. Mais dans la Bible, dans les Écritures, surtout dans l'Évangile, c'est très vrai. D'accord ? C'est que l'Évangile qui a commencé avec ce titre, verset 1, chapitre 1, n'est pas fini. Chaque fois que quelqu'un le lit, il prolonge l'Évangile, puisque l'effet de l'Évangile dans nos âmes est encore l'Évangile. Et ce n'est pas absurde de penser que cette foule dont il est question en 8:34, c'est nous. C'est moi. D'accord ? Si du moins je donne ma foi au Christ, mieux que ne l'ont fait ceux dont j'ai eu le déplorable exemple dans ma lecture. Pierre, la foule, les femmes, Judas, etc. Je sais bien que je suis un peu Pierre, un peu Judas, un peu les femmes, parce que, mais en même temps, maintenant l'Esprit Saint a été donné, je peux aller plus loin. Contrairement à ces personnages dans les écrits, l'Esprit Saint n'était pas donné, c'est Saint Jean qui me dit ça. Et donc, il ne pouvait pas faire le pas de la foi d'une foi complètement surnaturelle et complètement donnée. Mais moi, je peux. Et donc, après qu'il y ait eu ce tombé de rideau du verset 16, du chapitre 16, verset 8, le seul qui reste qui peut garder le message de l'Évangile, c'est moi. C'est là où l'Évangile fait beaucoup plus que raconter quelque chose, il le suscite. La catéchèse de Marc n'est pas intéressante, elle est efficace. Vous voyez ? Et ce serait dommage de le lire en disant, bon, en fait, c'est très simple, je ne vois pas bien l'intérêt de Marc, je connaissais déjà tout. En fait, c'est passé à côté de l'essentiel de Marc, c'est que Marc veut susciter chez son lecteur une foi plus profonde. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, il y a un envoi en mission. Allez dire à la place de ces femmes qui se sont tues ce que vous avez entendu, c'est-à-dire que Jésus est vivant. Il est Messie, Christ, Fils de Dieu, et donc Sauveur. Et c'est fait. Maintenant, il faut le proclamer. Et donc, le message de l'ange, c'est nous qui en sommes dépositaires, et on va le relire, verset 6 du chapitre 16. « Ne vous effrayez pas, c'est Jésus, le Nazaréen, que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici, voilà le lieu où on l'avait mis. » Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. En Galilée, là on est à Jérusalem, puisque c'est le lieu du tombeau. Le Galilée, la Galilée, c'est le lieu de la première partie de l'Évangile. C'est le début de l'Évangile. Et donc, aller en Galilée, c'est une invitation discrète à relire l'Évangile. Mais cette fois-ci, avec une foi plus forte. D'accord ? Et donc, si vous rentrez dans Marc, vous n'en sortez plus, c'est comme une machine à laver. Vous y revenez toujours, une fois que vous l'avez fini. Il y a un rembobinage, sauf que vous progressez avec votre lecture. Votre foi n'est plus la même. Il y a eu une expérience, une rencontre du Christ. D'accord ? Comme dans un cloître. Un cloître dans une abbaye, c'est un carré, mais c'est un rond, puisque quand on marche dedans, on revient toujours sur ses pas, comme les Dupont avec dans Tintin au Pays de l'Or-Noir. On revient toujours au bidon, mais voyez, c'est les Dupont qui ont raison, c'est un nouveau bidon. En fait, vous tombez sur un bidon et en fait, à chaque fois, vous cumulez quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est pareil dans le cloître, dans sa map, vous le relisez et c'est pas le même écrit, puisque vous lisez mieux disposé encore pour en profiter. Et donc, il y a un phénomène d'affinement. C'est un père de l'Église, je crois que c'est Jérôme qui dit ça. L'écriture croît à mesure qu'on la lit. Parce que le lecteur, en fait, croit lui aussi. Voilà. Et pour finir, pour justement vous inviter à le relire, pour faire une expérience de rencontre de Jésus à travers Marc, Saint-Marc a un autre côté un peu propre, c'est l'importance des regards de Marc, de Jésus dans Marc. Vous voyez, il y a un détail qui tue en Marc 10, sur un passage très connu du jeune homme riche. 10, 21. Donc vous connaissez hein, le passage, le dialogue, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Etc. Le dialogue, les commandements, Maître, je fais ça depuis ma jeunesse. Et la réponse de Jésus, verset 21, alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Là, vous avez deux choses qui sont uniques, propres à Marc, fixa sur lui son regard et l'aima. Et les regards de Jésus dans Marc sont souvent connotés d'une émotion, de colère, d'indignation ou d'estime et d'affection ici. Vous voyez ? Et donc, c'est vraiment, si vous avez bien compris comment ça fonctionne, une expérience aussi du lecteur. Il me regarde et il m'aime, puisque je suis moi aussi dans le récit. D'accord ? Et donc, voilà, c'est les trois niveaux. Ces trois niveaux-là, on les vérifie dans l'usage du mot évangile dans Saint-Marc. Ce sera ma conclusion. Avant les questions, s'il y en a. Donc, on a vu le premier emploi du mot évangile. Le deuxième, c'est une blague. Est-ce que c'est le chapitre 1? Excusez-moi, je m'embobine. J'ai perdu mon chapitre 1. Voilà. Chapitre 1, versets 14 et 15, il y a un nouvel emploi du mot évangile, mais en fait, on se moque de nous. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée proclamant l'évangile de Dieu et disant, donc il proclame l'évangile, on ouvre les guillemets, donc on va voir le contenu de l'évangile, et le voici. Le temps est accompli, le royaume des cieux est tout proche, repentez-vous et croyez à l'évangile. Le mot défini est dans la définition. Donc en fait, c'est une boucle infinie pour les mathématiciens. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre la définition, il faut définir un mot de la définition qui est le mot que vous êtes en train de définir. Donc en fait, vous pouvez occuper un belge comme ça pendant une éternité. Voilà. Puisqu'il relira la définition. Donc en fait, on n'avance pas. 8.35, on l'a vu, c'est à cause de moi et de l'évangile. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prête sa croix et qu'il me suive, qu'il prête sa croix à cause de moi et de l'évangile. Donc là, on a un sens qui se raffine. Ça pourrait bien être une indication que Jésus et l'évangile, c'est tout un. Que la bonne nouvelle qu'on nous annonce, en fait, c'est Jésus lui-même qu'il faut rencontrer. Chapitre 10, verset 29, c'est encore la même chose. Au chapitre 13, verset 10, là j'ai un doute, je ne sais plus ce que c'est, ce que j'ai dit. Je saute, tant pis, vous irez voir. Je vais au chapitre 14, verset 9, et c'est la scène de l'onction de Béthanie, où là on a une claire indication que l'évangile continue après l'ascension. C'est l'onction de Béthanie, donc cette femme qui brise un parfum pour oindre la tête de Jésus. Et Jésus qui répond à ceux qui la rudoient, « Laissez-la, pourquoi la tracassez-vous? C'est une bonne œuvre qu'elle a accomplie sur moi, les pauvres, etc. Elle a fait ce qui était en son pouvoir, d'avance elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le dis, on y est, verset 9, 14, 9, je vous le dis, partout où sera proclamé l'évangile, au monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. » Et donc Jésus nous indique clairement que le livre qu'il part de lui, qu'on est en train de lire, et il sait qu'on est en train de le lire, eh bien, il sait que ça continuera après son ascension, parce qu'il y aura une prédication de l'évangile qui prolongera ce que lui-même a initié par sa vie sur terre. Voilà, donc cet évangile, c'est le temps de Jésus, le temps du narrateur qui sait, qui met un titre, qui dit « c'est l'évangile dont je vous parle », et c'est le temps du lecteur. Et dans ces trois cas, c'est efficace. On a la source de toute efficacité, parce que l'Esprit Saint est à l'œuvre du sacré, et l'Esprit Saint est encore à l'œuvre, et là on a l'effet de la cause. Entre la source et le médium, au bout, on a l'effet, c'est en nous, dans la vie d'Église, dans la liturgie, mais aussi dans la lectio divina, on a l'Évangile qui se déploie. Et donc la splendeur de l'Évangile, elle est aussi dans la vie des chrétiens. Voilà. Bon, il y aurait beaucoup de choses à faire. Franchement, j'ai eu un grand bonheur à lire l'Évangile de Marc. Je vous souhaite un grand bonheur aussi. On peut y aller avec très peu de moyens, très peu de commentaires et trouver énormément de choses qu'on ne voit pas d'emblée, mais si vous découpez votre texte en paragraphes homogènes, en fait, par péricope, eh bien, vous trouvez, par une lecture attentive, énormément d'éléments qui sont très signifiants, des effets littéraires qui sont à la portée même de quelqu'un qui n'est pas en lettres. Il suffit juste éventuellement d'avoir quelques initiations. Il faut avoir le sens des symétries, le sens de l'inclusion. L'inclusion, vous voyez ce que c'est ? Vous l'avez déjà rencontré ? L'inclusion, ça revient à une ouverture, fermeture de guillemets, ça commence et ça finit. Et c'est signifié non pas par la ponctuation, mais par un mot, une expression ou une idée qui revient au début et à la fin. L'inclusion la plus savoureuse, c'est celle de saint Matthieu qui encadre Matthieu tout entier, début, fin. Au début, vous avez, et son nom est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec vous, ou Dieu avec nous. Et à la fin, dernière parole de Jésus avant de monter au ciel, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc le avec vous, avec nous, ouvre et ferme saint Matthieu. Et donc ça nous dit non simplement ça commence et ça finit, mais ça dit aussi assez souvent, parfois ce n'est qu'un moyen mnémotechnique, mais souvent c'est aussi un indice de l'idée forte et donc du message principal du passage. Pardon ?
C'est comme l'antenne pour les psaumes.
Voilà l'antenne pour les psaumes qui dit la lecture spirituelle qu'on va faire du psaume. Normalement, parce qu'il y a des antennes qui sont parfois... Ok, oui, why not? Et une autre inclusion dans Saint-Luc, cette fois-ci, au début, le père de Jean sort du temple, il est muet, donc il ne prononce pas la bénédiction. Et à la fin, Jésus prononce la bénédiction avant son ascension. Donc vous avez quelque chose qui était entravé au début, et c'était entravé jusqu'à la fin. Il fallait tout l'évangile pour que l'évier se débouche en quelque sorte. C'est bien, c'est cette comparaison. Voilà, avez-vous des questions ? Si vous pouvez mettre la caméra s'il y a une question, parce que j'avoue que là, j'ai un peu de mal.
Oui, une question sur le pessimisme de Saint-Marc. Pourquoi il insiste tellement sur le fait que les apôtres, ils n'ont rien compris, de toute façon, il va mourir c'est quoi son but ?
À mon avis, mais ça c'est assez personnel parce que je ne l'ai pas pu le corroborer avec des commentaires, c'est pour susciter chez le lecteur le désir de ne pas laisser Jésus seul. Je veux dire, si vous lisez la Passion, la dernière semaine de Jésus dans Saint-Marc, c'est assez poignant parce qu'on sent vraiment qu'il va à sa Passion et par ailleurs, on voit que personne ne le reçoit. Et l'autre raison que je dis à partir de Saint-Jean principalement, c'est que l'Esprit-Saint n'a pas été donné. Et donc, il est normal que Jésus ne soit pas compris. Il faut que l'Esprit-Saint rappelle les paroles du Christ et les fasse comprendre. Et l'autre raison, qui est plus une construction du récit, c'est que Jésus doit bien être le seul à mourir, puisqu'il est la rançon pour la multitude. Donc, ça aurait été malvenu et ça aurait brouillé le sens de la mission de Jésus si d'autres avaient offert leur vie en même temps. C'est pour ça qu'il freine Saint-Pierre quand il veut défendre Jésus. C'est pour que Jésus soit bien le seul à rentrer dans sa passion, comme le grand prêtre était seul à rentrer dans le temple. Et une quatrième raison, c'est que nous pouvons comme ça nous identifier à ces pauvres personnages et nous dire que ce n'est pas foutu pour nous. Voilà. Si même Saint-Pierre a chu après toutes les grâces qu'il a reçues, alors pour moi, qui ai moins reçu, c'est pas fichu, même si je suis obligé de me confesser pour la 777e fois. Voilà. C'est bon ? Autre question ?
Oui, moi j'en ai une. Comment on peut comprendre donc, le final qui a été rajouté, parce que même que ce soit écrit par Saint-Marc, non, je l'ai dit, c'est parti du canon, et on a l'impression que ça change de direction quand même, enfin, en rappelant que lui semblait en mission. Comment on l'intègre dans le reste de l'évangile ?
C'est une question qu'on m'a jamais posée. Vous avez entendu la question ? Non ? La question de Jean-Daniel, c'était... cette finale du chapitre cette finale rajoutée 16-9 à 20, comment l'intégrer dans l'ensemble? Moi, j'avoue que c'est une colle. J'ai jamais senti le besoin de l'intégrer dans l'ensemble. En fait. Donc, je pense qu'elle a été rajoutée parce que c'était un peu rude comme finale. Et peut-être que ça a troublé les fidèles ou des choses comme ça, ou peut-être que certains n'ont pas eu la lecture que j'en ai eue, qui est d'ailleurs assez personnelle. Hein. Enfin, y a des éléments que j'ai pris dans des commentateurs, mais il y a d'autres éléments que j'ai supposé moi-même. Donc peut-être qu'il y a une part un peu subjective dans ce que j'ai dit. Et donc peut-être certains ont pensé que c'était incomplet, qu'il fallait rajouter. On peut imaginer qu'il y a une finale qui s'est perdue aussi. Enfin, que le premier rouleau originel de Marc a été coupé. C'est dur à imaginer parce que, mais enfin, moi j'y crois pas parce que les évangiles ont d'abord été prêchés à l'oral par mémoire humaine plus, et non pas par écrit, mais on peut imaginer qu'une finale s'est perdue. Hein. Et donc cette finale, pour moi, elle vient là parce qu'il y avait une impression d'inachevé qui n'est pas tout à fait fausse. Hein. C'est vrai qu'on avait besoin des apparitions du ressuscité et de l'envoi en mission 12, qui est l'ouverture à la vie de l'Église. Et vous sentez bien comment, si on n'a pas ça, il faut compenser par une interprétation qui dit la vie de l'Église, elle n'est pas écrite, mais c'est nous qui la vivons. Donc on l'écrit dans nos cœurs. Donc les deux sont vrais, mais peut-être qu'il y avait besoin pour la mission, pour la pédagogie, de cette finale. Mais vraiment, faites l'essai de la lire en ayant bien, en vous étant bien imbibé du style de Saint-Marc, vous verrez tout de suite que ce n'est pas la même plume. Ça, c'est vraiment flagrant. Et il n'y a rien dans ces récits qui n'est pas pris dans un autre évangile. Il y a ces deux éléments littéraires très forts, en plus des éléments archéologiques, en comparant les manuscrits.
Merci.
C'est bon?
Oui.
C'est une réponse un peu décevante, mais voilà, je n'ai pas mieux. D'autres questions?
Sur quel témoignage est-ce que Saint Marc? Est-ce que c'est sur son témoignage à lui, qui est présent dans autre chose, ou sur Saint-Pierre? Ou est-ce que ça se sent aussi dans le texte?
La tradition nous rapporte que c'est Pierre, la source principale de Marc. Il y a un père de l'Église, on souhaite un père, qui dit que Marc était le secrétaire ou le scribe ou le traducteur de Pierre. Donc le mot grec peut dire plusieurs choses. C'est un texte assez ancien du IIe siècle, si je ne me trompe pas. Et donc on peut penser que la première source de Marc, c'est Saint-Pierre. En tout cas, c'est une prédication orale assez homogène. À mon avis, il n'a pas fait de composition comme Saint-Luc a pu en faire, ni Saint-Matthieu. On a vraiment l'impression que c'est d'un seul tenant, tellement le plan est fluide. Et c'est vraiment la division en deux et l'arc dont je parle, il saute aux yeux. Et même les six parties, les trois sous-parties par deux, par moitié, est extrêmement simple et facile à trouver. Donc on a vraiment l'impression d'une chose bien rodée à l'oral. Un élément interne qui fait penser que c'est Saint-Pierre, c'est une espèce d'affinité spirituelle entre l'évangile de Marc et la première épître de Pierre. Voilà. La deuxième de Pierre étant, selon certains exégètes, pas de sa main, voire même écrite après sa mort. C'est pas impossible. Hein. Vous avez abordé ça dans votre groupe, la question des auteurs des épîtres. De Pierre, de Paul, etc. Non? Non, ça ne vous dit rien?
Pierre, on devait avoir une influence qui était...
D'accord. Non, mais est-ce que c'est gênant pour la foi de dire que le deuxième de Pierre n'est pas de Pierre? Vous avez abordé cette question? Oui, d'accord. Vous êtes assez... D'accord, c'est pas gênant. Alors, c'est plus gênant dans le Nouveau Testament, dans la mesure où il y a quand même une date butoir, c'est que traditionnellement, on dit, même si ça n'a pas été repris par le magistère, que la révélation se clôt à la mort du dernier apôtre. C'est ce qu'on dit dans les manuels classiques, c'est ce qu'on enseigne dans les facs de théologie. Mais le Vatican II n'a pas voulu le reprendre. C'était dans le schéma préparatoire pour le document sur la révélation. Et ça n'a pas été repris comme thèse, donc elle n'a pas été canonisée. Néanmoins, elle semble assez cohérente. Et du coup, quand on vous dit que telle lettre a été écrite après la mort de Saint Jean, là, si on le dit, il faut, faut mettre quand même des précautions. On ne peut pas l'affirmer. Le charisme de révélation est différent du charisme d'écriture. Mais il faut quand même qu'il y ait une espèce de proximité dans le Nouveau Testament, parce que c'est les apôtres qui étaient dépositaires de la révélation. Donc il faut, à minima, si on dit que ce texte est d'après la mort de Saint Jean, que ce soit une mise sur le papier d'une catéchèse ordinaire, orale, de Saint Jean ou d'un apôtre. Voilà. Avec peu d'ajouts. Ceci étant dit, on peut le concevoir. On est très à l'aise pour penser que les apôtres aient pu écrire à partir d'un avec un scribe, un nègre, comme on dit, voire même qu'un disciple ait repris l'enseignement d'un maître et l'ait mis sous son nom. C'est tout à fait possible, et ça peut être une écriture inspirée quand même. Et donc la première de Pierre, qui pourrait, elle, être de l'époque de la vie de Pierre, et donc qui pourrait être de la main de Pierre, ou du moins proche de sa prédication orale, a en commun avec Marc une expression des émotions beaucoup plus nature que dans la deuxième de Pierre, par exemple. Et donc une espèce de spontanéité qu'on voit aussi chez saint Paul, mais avec plus de bonhomie que chez saint Paul. Saint Paul, vous savez, c'est le gars qui est très, très rude avec son lecteur. Vous avez vu ça avec Galates, je pense, aux Galates insensés, stupides insensés, on dit rigolum, stupide au pitchouflu. Saint Paul est très rude, au contraire, Saint Pierre est très paternel, très bon. Et on a l'impression qu'on a d'une même ambiance, franche, bonne, bienveillante, comme Jésus avec ses disciples. Et Pierre avec ses lecteurs. Voilà. Donc c'est un indice que je n'ai pas serré de très près, il faudrait peut-être une analyse plus poussée, mais bon, voilà. Il y a un dernier indice que c'est bien Pierre qui est la source, c'est qu'il paraît, alors là pour le coup je ne peux pas aller plus loin que ça, dire il paraît, je laisse ensuite les pros en latin et en grec de se pencher là-dessus, qu'il y a des latinismes dans le grec de Marc, donc il aurait été écrit à Rome. Voilà. C'est des éléments. Alors là, pour le coup, on voit ça dans Lagrange avait bien repéré ça, le père Lagrange. Mais je n'ai pas pris la peine de repérer les passages en question, parce que je ne suis pas assez bon en grec pour ensuite m'en servir. Donc, je suis désolé d'être court sur ce sujet. Voilà.
Et quand est-ce que le canon des Écritures, comme vous le savez,
c'est... Alors, la question, c'est de quand date le canon des Écritures. Alors là, c'est vraiment là. La poisse cette question. Je n'ai pas les dates exactes. Ça se fait, il me semble, là je suis sûr que ça se fait en deux étapes. Il y a les deutérocanoniques et les protocanoniques. Les deutéros sont les derniers à être rentrés dans le canon des Écritures. Et donc les premiers à avoir été, c'est assez tôt, et ça doit dater du 3e siècle, au moment où l'Église se structure, 3e, 4e. Et les deutéros, ça doit être un siècle plus tard, si je ne dis pas de bêtises. Où on a inclus par exemple l'Apocalypse, parce qu'elle a mis plus de temps à être reçue dans plusieurs églises comme étant un livre inspiré. Mais là, il faut vraiment aller voir dans un manuel ou un catéchisme un peu élaboré. Je ne sais pas si le catéchisme de l'Église catholique parle de ça. Des dates, ça doit y être, je pense, parce que c'est quand même assez important. Oui. C'est ça, mais tout à
l'heure, le charisme de révélation, le
charisme La question, c'est quelle est la différence entre le charisme d'inspiration et le charisme de révélation. Le charisme d'inspiration des Écritures, c'est la grâce que Dieu donne à un auteur sans qu'il en ait forcément conscience, qui fait que l'Esprit-Saint est également l'auteur de cet écrit. Et que du coup, il transmet, comme dit Vatican II, de façon infaillible les vérités de la foi et du salut. D'accord ? Il n'est pas infaillible sur une vérité historique, mais infaillible sur une vérité du salut. Et donc, ce charisme a pu être très largement répandu dans l'Ancien Testament. Vous avez pu voir ça avec Isaïe, avec les trois Isaïe. Ça peut être un travail fait par une école de rabbins, la rédaction d'Isaïe. Donc, il y a pu y avoir pas mal de gens qui ont eu ce charisme-là. Et Saint-Luc, qui dit qu'il a bossé, comparé, collecté des sources pour faire son évangile, avait le charisme d'inspiration, mais ça ne l'a pas empêché de travailler énormément. Voilà. Donc, le charisme d'inspiration, c'est tout sauf de l'écriture automatique. Si vous comparez avec la théologie islamique de l'inspiration du Coran, c'est très différent. C'était vraiment Mahomet qui reçoit un écrit qu'il n'a plus qu'à coucher sur le papier. Il a le texte et il l'écrit. C'est Dieu qui a composé l'écrit seul. Le charisme de révélation, en fait, plus proprement parlé, on l'appelle l'infaillibilité, et c'est le charisme que Dieu a donné aux apôtres, et seulement aux apôtres, à savoir d'être les témoins authentiques et infaillibles du message du Christ. Et qui est différent du charisme d'infaillibilité qui est conféré au pape, au collège des évêques réunis au pape et à l'Église tout entière. Parce que ce charisme-là ne s'exerce pas de façon habituelle, alors que le charisme d'infaillibilité des apôtres valait tout le temps. Dans tous leurs écrits, dans tous leurs propos, c'était infaillible, c'était vraiment le message du Christ. Pas forcément dans toutes leurs actions, on le voit avec Saint-Pierre qui se cache, qui a pu avoir un moment d'hésitation sur la place à donner à la loi juive dans la nouvelle année. Voilà. Et ce charisme-là n'a pas été transmis avec l'épiscopat. Le collège des apôtres n'a pas pour exact successeur le collège des évêques. Parce que le temps de fondation est achevé avec la mort des apôtres, et du coup, certes, les apôtres continuent leur œuvre dans les évêques, mais pas toute leur œuvre. Il y a des choses qui sont faites une fois pour toutes que les évêques, même rassemblés avec le pape, ne peuvent pas faire. Par exemple, valider une nouvelle écriture inspirée. Ça, c'est, voilà. C'est fini, ça. Et les apôtres ont validé leur autorité des écrits de leur époque qui ont été reçus comme tels dans l'Église. Et l'Église, quelques siècles plus tard, s'est bien rendu compte qu'elle avait reçu comme tels ces écrits et a dressé le canon. Mais ce n'est pas l'Église qui a décidé au IVe siècle, que ces écritures étaient inspirées. Elle s'en est rendue compte, et donc elle l'a officialisée. D'autres questions ? C'est bon ? Bah, écoutez, merci de votre attention.
Merci beaucoup.
Et puis, bonne continuation. Priez pour les quatre hein, qui sont à la grâce. C'est dur. Les cinq, c'est dur pour eux. Ça ne se voit pas, mais ils ont des poulets aux pieds et on les fouette. C'est difficile. Voilà. Allez, je vous laisse. Descendez un peu si vous voulez.
Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup.